prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, ressemblance.
Bonsoir à tous. Nous allons prendre un texte dans le Nouveau Testament pour commencer. Voilà. Une parole qui est très forte en signification. Ça se trouve dans l'épître de Paul, la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 2. Voilà. Alors, on commence par Colossiens, chapitre 2. Et au verset 9, le grand apôtre Paul, eh bien, nous a laissé cette parole. Au verset 9, il dit ceci, « Car en lui, et vous avez compris, en Christ, » en Jésus-Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il ajoute cette parole, vous avez tout pleinement en lui. Voilà. Alors, pour ceux qui ne seraient pas convaincus que Jésus est Dieu, eh bien, vous avez la preuve. Voilà. Et nous allons, d'ici quelques jours, eh bien, rentrer dans cette période de Noël et c'est véritablement, eh bien, tout simplement le souvenir, la commémoration de l'incarnation de Dieu, Dieu se faisant homme pour sauver les hommes. Alors l'apôtre Paul le souligne, et je me permets de le relire, il nous est dit que dans la personne de Christ habite, dans un corps, toute la plénitude de Dieu, si vous voulez, de la divinité. Alors en raison de cela, puisque nous savons que Jésus est Dieu, que si nous voulons voir le Père, Jésus répondra à une question, il dira « Mais celui qui m'a vu, a vu le Père ?» Eh bien, il en découle nécessairement de cette approche venue du ciel vers les hommes que nous sommes, eh bien que, puisque Dieu est Dieu, et que tout lui appartient, qu'il est roi, il est seigneur, il est souverain, il est majesté, il est suprématie, il est Dieu, eh bien que nous avons tout pleinement en lui. Je dis bien tout pleinement, sans restriction, sans réserve. Alors ceci nous amène à un autre passage que nous allons lire et qui va illustrer une forme, un genre de commentaire biblique. Oh, on le fait pas souvent, mais ça peut être très intéressant de le prendre en considération. C'est ce qu'on appelle eh bien, la typologie. Alors c'est un mot naturellement qui peut-être est réservé à pour ceux qui font l'étude de la Bible approfondie, on les appelle naturellement eh bien des théologiens, hein, on va pas aller jusque là, mais c'est l'étude tout simplement des caractères, des images si vous voulez, que nous pouvons trouver à travers des personnages de la Bible et qui sont des types de Christ ou des prototypes ou tout simplement, eh bien là, des hommes qui ont porté l'image de Christ. Parce que Christ, c'est lui qui réunit finalement, eh bien dans la perfection, la sainteté, la justice, la vérité, enfin, tous les caractères moraux de Dieu, c'est Christ qui les possède. Mais il y a eu dans l'histoire de la Bible, l'histoire finalement de l'humanité, et particulièrement dans le peuple d'Israël, des hommes qui sont apparus. Et qui, pour les uns, eh bien ont montré un trait de caractère, une forme, un tempérament, par exemple, ou des attitudes, ou là, eh bien, des actions ou des réactions que nous trouvons dans la totalité, mais dans la perfection, dans la personne de Christ. Alors, si je vous parle de Joseph, vous savez, Joseph qui était emmené en Égypte, vendu par ses frères, je crois qu'il représente, lui, eh bien, un type de crise tout à fait particulier, le support, la foi dans la souffrance. Avec cette élévation, après avoir été humilié pendant des années et des années, va se retrouver eh bien, dans une position de dignité élevée, où il deviendra tout simplement eh bien, le deuxième personnage de l'empire le plus puissant du monde à l'époque, c'est-à-dire l'Égypte. Voilà, l'abaissement et ensuite l'élévation. Et puis il y en a d'autres comme ça. Si je vous parle de David, vous allez me dire, mais David avait déjà des caractères. Déjà, quand nous lisons ces psaumes, on sent déjà eh bien, quelque chose qui nous parle et qui était tout simplement pour les Israélites de ce temps-là, eh bien, une incitation ou une aspiration dans leur cœur à soupirer après leur Messie. Alors, je vais vous parler de deux personnages qui sont vraiment moins connus. Hein. L'un s'appelle tout simplement Tula. Ça vous dit quelque chose ? Tula, vous comprenez. Hein. Et l'autre s'appelle Jaïr. Alors, on va lire ça, si vous voulez. J'espère que ça ne va pas causer des crimes et des assassinats. En tous les cas, Juge, chapitre 10. On va lire, et ce sont vraiment, c'est vraiment de la typologie. Ces hommes représentent eh bien, des anticipations de la venue du Messie, de la venue du Christ, à travers leur caractère, leur nom même particulier. Alors on va lire ça, Juge, chapitre 10, verset 1er. Après Abimélec, Tola, ou dans d'autres formules Tula, fils de Pua, fils de Dodo, il y a des noms extraordinaires, hein, homme d'Isaacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut, et il fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anons et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui les bourgs de Jaïr, et situées dans le pays de Galaad. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Voilà pour cette courte lecture, mais elle nous enseigne beaucoup de choses. Vous allez voir qu'à travers quelques versets bibliques, eh bien là, il y a une telle ressemblance à travers ce qu'ils ont été, le nom qu'ils portent, où ils ont été enterrés. Eh bien, véritablement, il y a un sens très profond que nous retrouvons d'une manière très vive et très significative à travers l'Évangile et la personne de Jésus. Donc, deux personnages porteurs des caractères de Christ. On pourrait dire que ces hommes étaient juges en Israël, on l'a lu, mais sans le savoir, ils étaient prophètes. Et leur vie est une véritable prophétie vivante, et comme je l'ai dit, et je rappelle ce mot que j'ai cité, anticipation de ce que sera pour eux, pour les Juifs, et de ce qu'est le Messie Sauveur à travers l'œuvre de son salut. Vous savez que Jésus a été envoyé comme serviteur de l'Éternel, c'est ce que nous dit le livre du prophète Ésaïe, chapitre 52 et 53. Vous le connaissez parce que c'est certainement un des passages les plus connus de l'Ancien Testament. Et nous nous apercevons que Jésus est venu pour remplir une fonction, un ministère, et quelque chose d'extraordinaire, que nul homme ne peut être comparé dans ce qu'il a accompli. Il est venu pour guérir les malades, il est venu pour délivrer, il est venu pour finalement eh bien, s'adresser aux hommes avec des paroles ineffables, un message d'amour, à travers tant de choses, faire descendre le surnaturel et le miracle de Dieu eh bien, sur la terre des hommes, pour leur dire, eh bien, en quelque sorte, je suis avec vous et je viens pour vous sauver, pour apporter naturellement à travers son sacrifice eh bien, le salut, la réhabilitation de l'homme auprès de Dieu, amener les hommes à se repentir de leurs péchés, à se convertir, à naître de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Enfin, que dire encore de nous montrer que eh bien, la totalité est devant nous. Ça, c'est toute l'œuvre et j'en passe, et certainement il y a bien des choses qui m'échappent de vous dire. Mais vous remarquerez qu'il y a un texte parmi des centaines et des centaines que je voudrais vous citer et qui caractérise l'œuvre de Jésus d'une manière tout à fait particulière. C'est quand Jésus dira à un moment donné, dans Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et vous trouverez, eh bien là, vous trouverez du repos pour votre vie, pour vos âmes, dans toutes les dimensions de votre vie. Ça, on le connaît. « Venez à moi. » Donc, on comprend qu'il y a là, quelque part, comme une indication divine, comme une lumière qui éclaire notre chemin ou le chemin de l'humanité pour dire, eh bien, c'est lui et lui seul. D'ailleurs, à ce point, l'apôtre Paul écrira qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je suis le chemin, la vérité, la vie, et vous connaissez aussi bien que moi. Alors, quel rapport y a-t-il entre cette œuvre extraordinaire et puis ce qu'il nous est dit dès l'abord, où il nous est parlé de Tola, je vais prendre la traduction de Tola si vous voulez, mais Tola qui se lève, cet homme parmi les Israélites qui se lève et qui se lève pour délivrer. Voilà. Retenez bien le verbe. Ce verbe qui est un verbe d'action qui est significatif. Vous savez, dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean chapitre 3, il nous est dit que le Christ apparut pour détruire les œuvres du diable. Oui, Jésus est venu pour délivrer les hommes, c'est vrai, du mal, les délivrer du péché, les délivrer de celui qui est l'instigateur du péché, et de briser les chaînes, de briser et d'ouvrir les prisons qui renferment les hommes et qui les rendent si malheureux. Alors il est venu pour cela. Et vous avez remarqué, cet homme, Tola, eh bien, va se lever pour délivrer lui. Suscité certainement par l'Esprit de Dieu, dans un contexte particulier où devait se trouver Israël, à l'époque des Juifs, qui n'était certainement pas une époque de prospérité morale et spirituelle, mais plutôt de décadence. Alors il s'est levé. Il a senti au fond de lui-même que Dieu l'appelait à une œuvre de délivrance. Il y en aura d'autres. Il y aura Gédéon, il y aura Jephté. Enfin, tout ça, c'est contenu dans le livre que nous avons ouvert ce soir. Alors, laissez-moi vous dire d'abord que ce nom de Tola, ou de Tula, c'est un nom prédestiné, parce que ça veut dire petit ver. Alors, petit ver, V-E-R. Parce que dans notre langue, il y a quand même des choses où il faut préciser. Hein. Petit ver, vous savez ce que c'est qu'un ver de terre? Alors, c'est un petit, hein. C'est ce que ça veut dire. Enfin, porter un nom comme ça, c'est plutôt embarrassant. Hein. Transmis naturellement dans notre langage. Alors, petit ver, et je voudrais vous donner cette explication. C'est que quand Jésus est venu, où il a fait son apparition sur la terre, écoutez, comment le Dieu sauveur, le Dieu créateur, eh bien, nous a parlé de celui qui viendrait, l'envoyé de l'Éternel, comme il est appelé, et comment il nous est présenté. Dans le chapitre 52, verset 53, je relis cette parole tout simplement, parce que c'est quand même intéressant de le prendre en considération. Il nous est dit que « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Mais avant de s'élever, et là je parle de Jésus, du serviteur qui viendrait annoncer prophétiquement, parce que c'est une prédiction qui a été donnée 800 ans avant la venue de Jésus, il nous est dit que de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Il a été méprisé, je continue, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il est né comme un rejeton sorti d'une terre desséchée, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous savez, on ne se pâme pas devant un verre, hein. Parce qu'il n'y a rien de beau dans un verre. Hein. Un lombric, il n'y a rien d'intéressant. Et Tola, par le nom même qu'il porte, hein, en quelque sorte, hein, eh bien, est une anticipation de ce que sera l'envoyé de Dieu qui n'avait ni éclat, ni attirance, et ce qui a fait dire à ses contemporains, c'est-à-dire les pharisiens et l'Israël du temps de Jésus, ça ne peut pas être le Messie. Il ne peut venir rien de bon, finalement, de Galilée, de Nazareth. Et puis toutes sortes de choses semblables, parce que quand Jésus est venu, eh bien, Il n'avait rien qui pouvait finalement dire, eh bien, ça, c'est forcément le Messie. Vous savez qu'Israël a eu un roi, le premier, qui s'appelait Saül. Il était grand, il était beau, il était fort, il avait toutes les qualités. Et on s'aperçoit comment il a fini. Parce que c'était pas cela. Ensuite, Dieu a pris un tout petit garçon qui s'appelait David, qui lui n'avait aucun aspect particulier, sinon qu'il était mignon de visage. Mais c'est tout ce qu'il avait. Et c'est lui qui a vaincu Goliath. Et c'est lui qui a été vraiment un des plus grands rois d'Israël. Alors, je crois qu'il faut faire attention là où on porte nos regards, parce que ce qui frappe les yeux, c'est pas forcément la réalité de ce qu'il y a dans le cœur. Et nous voyons que Tola, eh bien tout simplement, portait un nom qui anticipait sur ce que serait le Messie qui est venu parmi les hommes pour les sauver, pour faire une œuvre grandiose, magnifique, comme jamais la terre n'a pu le concevoir, mais qui est venu tout simplement, eh bien là, sans faire d'éclat particulier. Alors, ça, ce sont des choses qui nous sont dites et rappelées pour nous montrer, et ça, c'est de la typologie, je tiens quand même à vous le dire, l'étude des caractères. C'est le Sauveur dans son humiliation et dans son abaissement. Il y a un texte, qui est certainement aussi très approprié. C'est celui que nous avons dans Philippiens. Laissez-moi tout simplement trouver le passage, je vais simplement le remémorer devant vous, remettre à votre mémoire. Il nous est dit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et les sentiments de Jésus étaient des sentiments de modestie et des sentiments d'humilité. Alors, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et il nous est simplement rappelé que Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Au moment où Paul en parle, Jésus-Christ avait existé en forme d'homme, puisque nous avons dit tout à l'heure qu'il avait revêtu la corporalité, que Dieu s'était incarné. Comme nous le sommes, naturellement. Alors, il existait en forme de Dieu, et devant la mission ultime que le Père dans le ciel, celui qu'il appellera mon Père céleste, cette mission grandiose, eh bien, devant cet abaissement de ce ciel pour venir sur cette terre de misère, nous nous apercevons que Jésus n'a pas regardé à se faire égal avec Dieu. Il était Dieu, mais renfermé dans la prison d'un corps, dans finalement, eh bien, toutes les contingences de notre humanité, et ô combien ce corps nous fait souffrir, ô combien nous souffrons physiquement et nous souffrons moralement, comme dans une prison. Nous sommes renfermés, nous sommes avant tout créés pour ressembler à notre Créateur, parce que lui est esprit, et lorsque nous arriverons de l'autre côté, fini toutes ces choses que nous connaissons sur la terre. On n'aura pas à les regretter, je ne crois pas, parce que là nous prendrons notre envol pour l'éternité, libéré complètement et totalement. Mais Dieu a voulu, en nous créant, nous renfermer dans un corps. Et nous sommes là à l'école, nous sommes là pour apprendre. C'est comme ça. Alors il n'a point regardé à garder son égalité avec Dieu, nous dit le texte, comme une proie arrachée en disant, mais... D'ailleurs, vous souvenez, au moment de Gethsémané, par 2-3 fois, Jésus a repoussé la coupe. Vous souvenez de ça? Non. Si tu peux éloigner cette coupe de moi. Et pourtant, à chaque fois, Jésus est revenu en disant à son Père céleste, eh bien, j'accepte, je prends. Parce qu'il savait qu'il allait faire une œuvre que nous ne pouvions pas faire, c'est-à-dire l'œuvre de la rédemption et du salut, c'est-à-dire mourir à nouveau. Alors, pour aller plus loin, il nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur, d'un simple homme, tout simplement en devenant semblable aux hommes, connaissant notre souffrance, connaissant toutes les misères de cette terre. Et il a paru comme un vrai homme, comme nous, sans différence. Il a été tenté, il a eu soif, il a eu faim, il a connu la joie, il a connu les pleurs, il a connu la mort, il a connu la souffrance. Alors il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et aujourd'hui, eh bien c'est ce que nous constatons. Et vous savez, prêcher l'évangile, c'est prêcher Jésus-Christ. C'est pas prêcher une doctrine d'église. D'un mouvement, c'est prêcher Jésus, c'est faire connaître qui est Jésus. Et ça, c'est l'essentiel. Dieu ne nous demande pas et ne me demande pas autre chose que de vous parler de Jésus. Il y a tant dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour nous parler de Jésus. Et puis nous apercevons qu'en lisant notre texte, eh bien, ce fameux Tola était fils de Pua, c'est le nom de son père. Et nous découvrons qu'il avait une ascendance, c'est-à-dire, significative. Fils de Pua, c'est-à-dire bouche. Ça veut dire, en hébreu, Pua, ça veut dire bouche, tout simplement.
Recevoir finalement la foi dans son cœur et d'y croire, eh bien c'est parce qu'il entend la parole de Dieu. C'est une parole créatrice ou recréatrice, tout simplement. Et nous voyons que Dieu a choisi de faire connaître son salut à travers la personne de Jésus-Christ, ce salut annoncé à travers la prédication. Il y aurait peut-être d'autres moyens de se réunir et de vous parler ou de vous faire comprendre qui est Jésus. Mais comme Paul le soulignera, c'est par la folie de la prédication que Dieu a voulu que les hommes entendent le message du salut. C'est comme ça, tout simplement. Alors, dans l'étymologie de ce nom Pua, eh bien, ça veut dire bouche, tout simplement, le salut annoncé, mais il faut y croire pour être sauvé. Et puis, si on va encore un peu plus loin dans la généalogie de ce fameux Tola, eh bien, son grand-père aussi, le père de son père, s'appelait fils de Dodo. Alors, j'espère que ça ne va pas vous demander. Mais toujours est-il que c'est ce qui est écrit. Et Dodo, ça veut dire tout simplement celui qui aime. Celui qui aime. Et la meilleure explication que nous pouvons trouver, eh bien, c'est Jean 3,16. Quand Jésus a dit cette parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui aime. Et Dieu a aimé ce qui n'était pas aimable. Et c'est précisément pour ça qu'il est venu. Non pas pour des justes, non pas pour des anges, non pas pour des créatures supérieures, mais il est venu pour une humanité perdue, corrompue, complètement, eh bien là, égarée. Alors, je crois que c'est le résumé de toute la Bible, Jean 3,16. Car Dieu a donné. Oui. Il pouvait le garder. Dieu pouvait rester dans ses palais d'ivoire et dans son ciel et ne pas descendre sur la terre, mais il l'a donné. Et à quel prix? Quel prix de souffrance? Se mettre à la portée et marcher sur une terre qui n'est fait que de souillure, de méchanceté, de cruauté, de monstruosité due tout simplement eh bien, au mal et à la corruption régnante, tout simplement. Et il était fils d'Issachar. Voilà. Issachar, c'est une des tribus d'Israël, naturellement, hein, qui veut dire il est le salaire. Issachar, ça veut dire salaire. Et l'on comprend dès lors la notion de rachat et de rédemption que nous trouvons en Jésus-Christ. Vous voyez, simplement dans le nom de ce fameux Tola, eh bien, il y a déjà toute une partie de la doctrine chrétienne. En typologie, en figure, en quelque sorte, en figuration, si vous aimez mieux. Alors, pour nous parler de rachat et de rédemption, il n'y a pas mieux que d'ouvrir tout à nouveau le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, c'est toujours le même, parce que je crois que là, eh bien, c'est marqué finalement en lettres de feu, pour tous les hommes de tous les temps, dans le chapitre 53, quand il nous est parlé de ce Messie, de cet envoyé qui viendrait, eh bien, il nous est simplement rappelé au départ, mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce qu'on l'attendait glorieux, il est venu humilié. Qui? Il s'est élevé comme une faible plante, nous l'avons. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais à savoir que ce n'était pas pour lui, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je le rappelle au passage. Eh bien, c'est précisément Jésus qui l'a porté. Eh bien, ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et puis, il faut bien quand même rappeler que dans le verset 12, toujours dans ce chapitre, il est dit « Mais c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ?» Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà. Voilà, vous avez dans ces noms, à partir du nom du premier que nous avons vu, de son père, de son grand-père et également de tous ses ascendants, eh bien finalement, vous l'avez compris, le caractère de Christ.
et l'œuvre de Christ manifestée. Alors, on va encore poursuivre. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'à travers Jésus-Christ et notre foi en Jésus, quelqu'un a payé la rançon de notre salut, de notre affranchissement, de notre purification, de notre délivrance. Et ça, c'est fondamental. Je crois que c'est l'œuvre ultime de Jésus, avec la résurrection. Et vous avez également constaté que cet homme, Tola, habitait à Shamir, une localité en Israël. Et le mot Shamir a pour sens épine. Ouais, épine. Alors je ne sais pas si c'est un village où il y avait beaucoup d'épines, des ronces, des ronciers, des épineux, mais toujours est-il que si on traduisait sur nos pancartes avant les localités, eh bien, il y aurait un village qui s'appellerait peut-être en Loire-Atlantique Épine. Voilà, tout simplement, c'est ce que ça veut dire, Shamir. Je voudrais vous dire que rien n'est laissé au hasard dans la parole de Dieu parce que Christ est venu dans son monde et un monde qui se caractérisait dès la chute de l'homme par des épines et des ronces. Vous connaissez Genèse chapitre 3. Les premières paroles qui arrivent aux oreilles de l'homme qui a abandonné son Dieu, qui a tourné le dos à Dieu, c'est que la nature, qui était avant tout sortie des mains de Dieu pour être une bénédiction, une grâce et une abondance pour l'homme dans sa vie, va devenir une malédiction. Et Dieu dira à l'homme, mais voilà, les conséquences maintenant de ton choix, c'est que tu vas travailler à la sueur de ton front, et au lieu de cette végétation luxuriante, tu trouveras autour de toi des épines et des ronces, des mauvaises herbes, si vous voulez. Et vous savez, je vous ferai remarquer que les mauvaises herbes poussent 10 fois plus vite que les bonnes. 10 fois plus vite que les bonnes. Et c'est bien le caractère de notre monde, parce que si on veut donner cette image, quand on entend et ce que l'on voit tous les jours par les médias d'une manière ou d'une autre, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a des ronces et des épines dans notre monde? Ça ne se passe pas aussi facilement que ça. C'est terrible. Et les ronces, ça blesse, ça détruit, ça étouffe, ça, finalement, empêche la vie. Et tout ça, c'est la conséquence de la malédiction originale qui nous est dit dans Genèse chapitre 3, dont je vous ai cité le texte de mémoire il y a un instant. À travers les haines, à travers les violences, la guerre, le mensonge, à travers le meurtre, à travers l'hypocrisie, à travers l'égoïsme de l'homme. Et en ce qui concerne Jésus, si nous voulons faire ce rapport, lui, ce roi des rois, ce seigneur des seigneurs qui est descendu du ciel, qui s'est incarné, Dieu lui-même venu prendre notre condition, vous savez comment les hommes l'ont reçu et comment ils l'ont déclaré? Oui, ils l'ont déclaré roi. Et la couronne qu'on lui a mise sur la tête, c'était non plus ni moins qu'une couronne d'épines, qui suscitait la moquerie, l'ignominie et les crachats et la violence sur son corps. Alors on l'a couronné d'épines à la croix. Et pour nous, pour chacun d'entre nous, elle a connu les épines de la malédiction pour que, en retour par la foi dans ce qu'il a accompli pour nous, nous puissions avoir la bénédiction. Et ça, c'est la proclamation glorieuse de la bonne nouvelle de l'Évangile qui est offerte à tous les hommes, pour tous ceux qui croient, à travers tous les temps, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, parce que Dieu n'est pas venu vers nous pour nous maudire, mais il est venu pour nous bénir. Et il nous appartient à nous-mêmes de vouloir recevoir la bénédiction, si nous le désirons, en croyant à cette promesse, tout simplement. Et je l'ai dit il y a peu, nous voyons qu'il habitait dans la montagne d'Éphraïm. Ça, c'est un inconnu, c'est aussi une tribu d'Israël, la montagne d'Éphraïm. Et Éphraïm, ça veut dire montagne féconde. C'est un petit peu au-dessus de Jérusalem. C'est pas très loin. Vous savez, quand vous allez en Israël, on peut le faire presque à bicyclette. Enfin bon, en quelques jours quand même, mais c'est pas très loin. Donc, montagne d'Éphraïm, montagne féconde. C'est un petit peu ce que nous avons dit dernièrement lorsque nous avions parlé de l'abondance du pays de, de Canaan où coule le lait et le miel. Et il y avait là quelque chose de tout à fait sensible. Et un Israélite, un Juif, un Hébreu pouvait vraiment savoir la signification de tout ça. Montagne féconde. Quand on sait que Christ a été élevé sur une colline, une montagne, il était élevé sur une croix, afin que la fécondité repose sur nos vies qui avaient été rendues stériles et qui avaient été desséchées par le péché. Ouais. En Christ, vous avez tout pleinement. Physiquement, moralement, psychologiquement, spirituellement, nous avons tout pleinement si nous voulons le saisir. Une vie de grâce, une vie où le Seigneur est sans restriction pour ceux qui croient en lui, pour ses enfants, pour son peuple. Parce que il faut bien se souvenir qu'il est notre Père et que nous sommes ses fils et ses filles. Et quel est dans une famille un père digne de ce nom ou des parents dignes de ce nom qui donnerait, comme Jésus le suggère dans l'enseignement de la prière, qui donnerait une pierre à la place du pain, qui donnerait un serpent à la place d'un œuf? Vous comprenez ce que ça veut dire? À combien votre Père céleste vous donnera-t-il? Eh bien, sa grâce, sa bénédiction, l'abondance, le Saint-Esprit, à ceux qui lui demandent si vous, déjà, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Montagne féconde, et nous pouvons dire qu'en Jésus-Christ, il y a la fécondité. À cause de son pardon, puisque nous avons parlé de stérilité du péché, du mal, desséché, à cause de notre nature, tout simplement, et cela pour être élevé jusqu'au ciel, dans l'abondance. N'est-ce pas Jésus qui tiendra ses propos dans cette belle parabole très connue de l'évangile de Jean au chapitre 10, quand il parlera du bon berger, il dira « Mais je veux que mes brebis soient dans l'abondance. Elles rentreront, elles sortiront, mais qu'elles aient la vie, précisément en abondance. Moi, ce que me réjouit le plus, à la fois pour moi-même et de le dire aux autres, c'est encourager, conforter, réconforter, apporter cette bonne, ce bon message à tous ceux qui sont dans la médiocrité et la restriction. Parce que ça, c'est la vie. Si nous tenons compte des paroles que Jésus nous a laissées, je crois vraiment que le Seigneur est venu pour bénir les hommes. Et je crois que ne soyons pas à la fois timorés ou timides ou restrictifs nous-mêmes pour être remplis de cette eau divine qui vient sur nos vies, pour nous rafraîchir et nous donner tout ce dont nous avons besoin. Oui, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et puis il y a un deuxième personnage qui s'appelle Jaïr. On va laisser Tola de côté, on va aller voir l'autre personnage Jaïr. Toujours dans cette étude de caractère et la signification des noms que ces hommes portent, eh bien Jaïr veut dire « celui qui éclaire », ouais, ou l'éclaireur, si vous aimez mieux. Si je vous dis la lumière, vous savez ce que ça veut dire, hein? Qui est Jésus-Christ? Qui est ce Messie glorieux? Qui est celui que Dieu a envoyé pour apporter la lumière dans ce monde de ténèbres, dans l'obscurantisme des hommes, leur âme ou leur conscience obscurcie? Eh bien, qui est Jésus-Christ? Celui qui éclaire et qui se nomme lui-même « Je suis la lumière du monde ». Et il ajoutera cette parole « Certes, je suis la lumière du monde, mais celui qui me suivra, eh bien, il ne marchera pas dans les ténèbres. » Et nous avons besoin de bien comprendre et d'emboîter le pas au Seigneur pour que, dans sa proximité, en suivant ses traces, en marchant dans ses pas, nous ne serons jamais dans les ténèbres. Et c'est sa personne, c'est sa parole, c'est son esprit qui nous donne véritablement d'être dans cette dimension et dans cette dispensation lumineuse. Oui, je suis la lumière du monde, nous dit Jésus. On pourrait dire il est fils de Jaïr, en quelque sorte. Et dans le prologue de l'évangile de Jean, chapitre 1er, il nous est dit qu'il était la lumière qui éclaire tout homme qui vient dans ce monde. Ça, ce sont des paroles extraordinaires, des paroles magnifiques. Et derrière la citation de ces versets, je voudrais, pour tous ceux qui les entendent, vous et puis peut-être d'autres certainement, eh bien qu'ils puissent non pas entendre la voix d'un homme, mais recevoir par la communication du Saint-Esprit eh bien quelque chose de fort,
autant que je m'en souvienne, la première fois que j'ai lu la Bible, et je le dis et je le répète, eh bien, quand j'ai lu la Bible, j'ai senti en moi-même que ce n'était pas des hommes, que ce n'était pas un homme qui me parlait, mais j'étais convaincu que c'était Dieu qui me parlait à ce moment-là. Et ça bouleversait ma vie. Ah ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Un bouleversement. Une voix, une parole, une expression de communication, un appel qui venait d'ailleurs que de ce monde. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'y croire. C'était encore quelque chose que je ne méritais pas, mais il m'a fait la grâce d'y croire. Vous savez, la grâce, c'est la chose la plus belle et la plus merveilleuse qu'il y a au monde. Acceptez la grâce de Dieu. Croyez à la grâce de Dieu et vous serez heureux. Tant de gens sont tourmentés, tant de gens sont prisonniers, sont là dans une situation d'étouffement. Parce que la liberté, la libération, c'est l'esprit de grâce, comme nous dit le livre des Hébreux, l'esprit de grâce du Seigneur. Alors, ce fameux Jaïr dont nous parlons habitait au pays de Galaad. Vous avez souvent entendu parler du pays de Galaad dans l'Ancien Testament. Pays de Galaad a deux sens. Le premier exprime la dureté, la force, est synonyme de rocher. Donc vous avez compris ce que ça veut dire. Il n'y a pas de rocher mou. En principe, ils sont durs. Donc ça donne cette idée. Et puis le deuxième sens de Galaad, ça veut dire fontaine perpétuelle. Vous savez ce que c'est qu'une fontaine qui coule toujours, elle est toujours alimentée et elle alimente toujours en eau. Elle ne s'arrête jamais. Voilà. Il n'y a jamais de sécheresse. Donc les deux sens. Rocher, force, dureté ou cette eau abondante. Qui n'a jamais lu dans la Bible que Jésus est le rocher? Il est même appelé le rocher des siècles. Oui, Jésus est le rocher. Et il nous est parlé aussi qu'il est aussi la pierre angulaire, sur laquelle cette pierre même est posée l'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu racheté. Et c'est lui qui est le fondement, c'est lui qui est le roc, c'est lui qui est la base, et elle est solide. Dans l'Épître aux Corinthiens, encore, si nous voulons faire ces rapprochements de ressemblance, dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens, précisément au chapitre 10 et au verset 4, qu'est-ce que nous lisons autour de cette question? Il nous est parlé des Hébreux quand ils étaient dans le désert. Et voilà qu'à un moment donné, il nous est dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel qui était la manne, qui pour nous est la parole de Dieu aujourd'hui. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ça, Moïse ne pouvait pas le dire à l'époque. Mais aujourd'hui, du temps de l'apôtre Paul, il pouvait dire, mais le rocher des siècles, celui qui est inébranlable, celui qui ne varie pas, dans lequel il n'y a ni ombre de changement ni de variation, c'est lui, c'est Christ. Je voudrais le rappeler ce soir, parce que je crois qu'il me semble que c'est important de le dire et de le redire. Vous savez, être chrétien, c'est vraiment appartenir à Jésus-Christ. Après le reste, ça a certainement son importance, mais l'essentiel, c'est que nous soyons, que vous soyez, que les hommes et les femmes qui entendent l'appel de Dieu s'attachent à Jésus-Christ. Après, l'expression, les cultures d'Église, la manifestation, pourvu que Christ y soit, que sa parole soit prêchée, que la grâce et la présence du Saint-Esprit soient là, mais le reste, pourvu que nous soyons à Christ. On n'aura peut-être pas toujours des lieux de rendez-vous que l'on appelle des églises. On n'aura peut-être pas toujours des frères anciens pour prêcher l'évangile, ou tout simplement des pasteurs. Il n'y aura peut-être plus des évangélistes à un moment donné, mais si vous avez Christ, vous avez tout. Ce n'est pas une construction par l'extérieur, c'est une édification par l'intérieur d'une foi solide, d'une foi ancrée, d'une foi posée, une fois pour toutes. Et ça, c'est l'assise de notre foi indéfectible. Et puis, ça prête à sourire, parce qu'ensuite, il nous est dit que Jaïr était un homme de grande richesse. Alors, autant que je l'ai compris, il avait 30 fils. Ça, c'est pour les allocations familiales, c'est là, pas possible. Qui montait 30 ânons et qui possédait
tranquille. Ça devait être un prince en Israël. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Hein. Bon, ce n'était pas un pauvre. Hein. Il ne devait pas s'appeler Lazare, celui-ci. Mais c'est pour montrer quelque chose. C'est pour nous montrer quelque chose. Oui. Pour nous montrer que son nom, Jaïr, est encore aussi une anticipation et une perspective de ce que Christ est dans sa richesse infinie. Nous ne sommes pas des hommes pauvres. Je voudrais vous dire que les enfants de Dieu sont les hommes les plus riches de toute la terre. On n'a pas à se plaindre. Seigneur, moi, donne-moi un cœur qui regarde ce que tu m'as donné et non pas ce qui me manque. Parce qu'autrement, on n'est pas sorti. Seigneur, je veux contempler combien tu es bon. Sentez, voyez, goûtez combien l'Éternel est bon, il nous est dit dans le psaume 34. Parce que notre Dieu, il est riche. Et Dieu est venu vers nous à travers la personne de Jésus-Christ pour nous enrichir. Et il s'est fait pauvre pour que nous nous soyons enrichis. Vous vous rendez compte? Il s'est dépouillé de sa gloire, dépouillé de ses richesses célestes, de toute cette dimension dont on a vraiment beaucoup de mal à comprendre, parce qu'il s'est fait pauvre pour le donner à ses fils. Et nous sommes des fils et des filles de notre Père Céleste, par voie, tout simplement, de ce rachat. Oui, nous avons été enrichis. Il y a un petit cœur qui nous rappelle ça. Hein. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour moi. Vous connaissez ce petit cœur? C'est très ancien, ça. Mais moi, je suis déjà un ancien, je suis déjà période antidiluvienne, hein, presque du temps de Noé. Hein. Mais on ne le chante plus maintenant, mais c'est dommage, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une communication quand même d'un message à travers tous ces petits cœurs, là, comme ça, que nous chantons. Alors voilà, Christ s'est fait pauvre, il s'est dépouillé, il est venu comme un simple homme. Vous vous rendez compte que on va nous le dire bientôt, parce qu'on s'en souvient, et c'est une vérité biblique et évangélique, qu'il est né dans une misérable étable parmi les animaux. Que finalement, eh bien là, il a été pendant près de 30 et quelques années dans un bourg obscur qui s'appelle Nazareth à faire le travail des hommes, sans paraître aucunement, avant d'arriver dans cette dimension de ce ministère unique, ce ministère messianique, tout simplement. Alors, nous sommes des héritiers. Hein. Ça vous est déjà arrivé de constater que dans le Nouveau Testament, le mot héritage nous revient souvent? Héritier, dans les épîtres de Paul. Souvent, ça nous dit que nous sommes héritiers. Alors, il y a des héritiers qui attendent l'héritage, avec impatience, quelquefois qui bousculent un peu le protocole. Il y a des héritiers qui négligent l'héritage, ouais, qui méprisent l'héritage. Mais je crois que nous sommes appelés à prendre cet héritage avec gratitude et reconnaissance. Et vous savez qu'il y aura des choses. Hein. Alors ne vous attendez pas à avoir des champs et des maisons. Hein. C'est peut-être pas tout à fait dans cet ordre-là. Et nous avons les arts de notre héritage céleste par le Saint-Esprit. Alors, on peut déjà jouir hein, quelque peu de cette lueur qui paraît déjà au-dessus de notre tête dans le ciel, de la gloire de Dieu pour savoir ce qui nous attend. Hein. Quelque chose. Hein. Et dans cet héritage, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Hein. Vous êtes héritier, et il faut croire. Il faut faire valoir votre héritage. Et il ne faut pas vous le laisser voler par l'adversaire, parce que lui, il voudrait mettre la main dessus. Hein. On ne se laisse pas prendre, naturellement. Il nous est dit que ses fils possédaient 30 villes. Là, c'est quelque chose. Hein. On peut parler de 30 villes, 30 villages, dans les, enfin, 30 bourgs de Jaïr, on pourrait dire cela. Hein. C'était toute une province, hein, Galaad. Et il est parlé là de générosité de la part du père de Jaïr pour ses fils et de prodigalité divine qui nous ouvre les trésors du royaume de Dieu. C'est pour ça que je rappelle, et ce que nous avons lu tout à l'heure, hein, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nos problèmes d'ordre humain, d'ordre affectif, économique, peut-être professionnel de travail ou d'autre chose, mais le Seigneur a déjà la réponse. Je dois être confiant et d'attendre le moment où il voudra finalement eh bien, m'ouvrir, mais c'est déjà ouvert. C'est surtout moi qui n'ai pas le bras assez long. le bras de la foi, vous comprenez ? Mais c'est à moi. Tout ça, ça m'appartient. Et puis, en ce qui concerne Jaïr, il nous est dit qu'il est mort. Il a fait comme tout le monde. Et il fut enterré à Camon, ou Camon, comme vous voulez, qui se traduit par des pas abondants. C'est-à-dire marcher vite. Comprenez ? Hein ? Des pas abondants. Ou alors, le blé sur pied. Il y a toujours une histoire de pied, là, dans cette affaire. Hein. Le pied, le blé sur pied, pardon. Pour nous montrer, encore par anticipation, que lui, le Christ, a dirigé ses pas dans un endroit et vers une direction tout à fait particulière qu'aucun homme n'aurait voulu prendre et que n'aurait voulu faire. Il est allé, il a dirigé ses pas précipités vers la croix. Parce que vous savez, hein, on va certainement en reculant vers la mort, hein, parce que c'est tout à fait naturel et humain, et ça se comprend. Mais lui, sans retour et sans regret et sans remords, il est allé vers cette croix et la mort pour que nous suivions sa marche dans la direction de l'éternité. Il est monté sur cette colline. Il s'y est arrêté. On l'y a arrêté pour le crucifier, pour le mettre à mort, alors qu'il était innocent, qu'il était saint. Et toute la signification, finalement, de ce don de sa vie, c'était pas pour lui, c'était pour nous. Oui, il a précipité ses pas. Il a hâté sa marche pour que nous soyons sauvés. Et encore aujourd'hui, le temps passe, les siècles s'écoulent, les sociétés, les civilisations, eh bien là, se déroulent devant nos yeux autant que nous puissions le considérer. Mais il nous est dit que Dieu use de patience envers tous les hommes, afin que tous les hommes, en ayant le temps, puissent réfléchir, puissent avoir accès à l'Évangile, y croire, et puissent être sauvés, se repentir pour être sauvés. Parce que Jésus a hâté sa marche de salut, et il l'a fait à notre place. Il s'est dépensé sans compter dans ce pays de Palestine, d'où tout est parti. Et ce message, dans ce pays d'Israël, a fait le tour du monde. Et ça fait 21 siècles que ça fait le tour du monde. La parole court, elle marche. Et elle passe, là, d'un hémisphère à l'autre. Mais Jésus n'a pas regardé la fatigue, il n'a pas regardé la faim, il n'a pas regardé la soif. Il n'avait aucun lieu pour reposer sa tête, nous dit-il. Mais il est allé vers nous, vers les hommes de tous les temps. Mais c'est aussi la belle image de l'espérance qui nous est laissée à travers cette terre de Camot, image de la résurrection, parce qu'il ne peut y avoir de résurrection que s'il y a la mort. Et il faut bien comprendre que pour nous, et ça, ça sert d'instruction, que si nous voulons ressusciter avec Jésus-Christ, il faut consentir à mourir, hein, mourir à nous-mêmes. Et c'est là où nous en arrivons à la deuxième signification, où il nous est dit le blé sur pied. Parce que ça nous ramène à la parabole que Jésus nous laisse. Petite parabole qui pourrait passer insignifiante, dont nous avons donné le commentaire il y a à peu près 15 jours, 3 semaines ici, si le blé ne meurt. Dans Jean chapitre 12, au verset 24, quand il est dit ceci, « Mais si le blé qui est jeté en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Mais s'il meurt, alors à ce moment-là, la vie revient. » Et ça, c'est le principe, tout simplement, de la régénération, de la transformation de nos vies, de la sanctification d'une vie nouvelle. Alors, en conclusion, à travers ces deux personnages, on en a appris beaucoup à travers quelques lignes, mais ça nous a projeté d'une manière fulgurante et lumineuse vers celui que nous devons prendre en considération et regarder, ne regarder qu'à lui seul, c'est-à-dire la personne de Jésus, parce qu'il est le Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Je voudrais vous dire que Dieu nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ. Et avec tout cela, eh bien, il nous comble de paix, il nous comble de joie et il nous donne une espérance vivante. Alors que Dieu nous bénisse les uns et les autres. Que tous ceux qui prennent cette parole, que tous ceux qui reçoivent cette parole dans leur cœur, qui la saisissent et qui la gardent, qui croient en Jésus-Christ, eh bien vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement en Christ. Il n'y a que lui. Parce qu'il est Dieu, venu auprès des hommes, vers les hommes, pour nous sauver et nous bénir. On va prier simplement quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que toute l'histoire de la Bible, eh bien, elle est là. Oui, elle est là. Elle est là dans l'homme. Ce que Pilate a dit le jour de Pâques, « Voici l'homme ». Eh bien, Seigneur, nous croyons que l'homme qui est venu, c'est tout simplement l'abaissement, l'humiliation, de notre Dieu créateur et de notre Dieu sauveur, qui s'est fait comme nous sommes, qui s'est fait simple homme, qui est venu s'abaisser, qui est venu s'humilier, pour que nous puissions et bien véritablement suivre tout simplement son exemple et son modèle. Et nous voulons, Seigneur, et bien te remercier. Merci parce que, en effet, à travers toutes ces images de la Bible, tu tentes de faire comprendre à cette humanité perdue, eh bien, qu'il est nécessaire que nous croyions en Jésus-Christ pour être sauvés, que nous venions par Jésus-Christ pour être pardonnés de nos péchés, que nous puissions mourir à nous-mêmes, Seigneur, pour renaître, pour revivre, parce que nous croyons, Père éternel, que la mort pour nous n'a pas le même sens que pour les incroyants. Pour nous, Seigneur, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre, mais une vie d'une dimension morale, une vie d'une dimension spirituelle, une vie éternelle. Seigneur, accorde-nous ta grâce. C'est au nom de Jésus, Seigneur, puisque tu nous as appris, Seigneur, en priant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tous ces hommes qui ont défilé à travers les siècles, que ce soit un Tola ou un Jaïr, que ce soit un David, que ce soit un Joseph, ou en effet tant et tant d'autres, tous ont été porteurs d'une image, d'un caractère, d'un tempérament, Seigneur, d'un modèle, d'un exemple, en effet, qui a fait en sorte qu'à travers tous les siècles, les hommes, eh bien, regardant vers le ciel, ont aspiré, ont soupiré dans la venue du Messie, dans la venue du Sauveur et du Rédempteur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour notre temps, pour notre génération et pour notre monde. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen.